vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 74. Au loin, les monts des géants, Ségolène Plière. Chers amis, bonjour. 48 ans, 48 années. Mais ce n'est pas si long que ce n'est pas aussi long que cela. Le temps passe vite lorsque l'on regarde par-dessus son épaule et que l'on se demande « Ai-je perdu mon temps ?» Maintenant que j'ai bien plus de 50 ans, c'est quoi le temps perdu dans une vie ? Bon, nous ne sommes pas des gens sentencieux dans cette émission, vous l'avez bien connu, mais connaître le temps perdu, bon, c'est un clin d'œil à Proust, hein, mais donc, pourquoi 48 ans ? Eh oui, chez nous, derrière la lune, Hendermentheim, de 1870 à 1918, nous étions Allemands. Et ce passé, aujourd'hui, on le célèbre, on est fier à Strasbourg, de la Neustadt, des Ginkoya, de la place de la République, et puis le fait de balayer tous les samedis devant sa porte. Alors, comment sommes-nous perçus au cours du XXe siècle, nous les Alsaciens, depuis l'autre côté du Rhin? Eh bien, notre invitée aujourd'hui se nomme Ségolène Plière. Elle est universitaire à Strasbourg, agrégée d'histoire et donc spécialiste du passé, ce qui nous importe tant dans cette émission. Bonjour Ségolène Plière.
Bonjour Antoine Perrin.
Vous êtes une spécialiste des Allemands, des Sudètes. Au XXe siècle, alors les Sudètes, hein, c'est les monts des géants.
En fait, j'ai fait ma thèse sur les Allemands des Sudètes, qui étaient la minorité germanophone de Tchécoslovaquie pendant l'entre-deux-guerres, qui a été expulsée en 1946 et qui comprenait beaucoup, qui était à peu près de 3 millions de personnes. Et puis actuellement, je fais une histoire régionale d'une frontière tchèque, frontière avec la Pologne, et c'est une région de peuplement mixte, semi-montagneuse, qui ressemble un peu à l'Alsace.
Ah ben justement, c'était ma question. Les Allemands des Sudètes, pouvons-nous faire un parallèle avec les Allemands de l'Alsace ?
Non, parce que... Enfin, oui et non. Il y a des points communs, il y a de grandes différences. Le point commun, c'est la proximité, l'appartenance à la culture allemande, hein, qui était quand même une culture qui dépassait largement l'Allemagne. Et puis, effectivement, du fait aussi, peut-être, des circonstances géographiques, de l'industrialisation, il y a eu la même histoire industrielle... assez précoce, donc développement d'écoles techniques, une mentalité un peu technicienne, vous voyez, travail bien fait, planification, enfin toutes ces qualités que l'on accorde aux Alsaciens. Mais il y a de grandes différences. L'Alsace est une région, l'Alsace a développé sa conscience régionale pour sauvegarder ses particularités entre la France et l'Allemagne, alors que les Sudètes étaient... Enfin, d'abord, ils ne se sont définis que dans l'entre-deux-guerres, à l'époque où ils faisaient partie de la Tchécoslovaquie. La plupart de ces germanophones habitaient sur le pourtour des pays tchèques. Et ils n'étaient pas jusque-là considérés comme une minorité. Mais ils n'avaient pas développé une conscience régionale, mais plutôt une conscience de groupe ethno-culturel.
Donc peut-être pas la même velléité d'autonomie que certains Alsaciens ?
Alors dans cette conscience ethno-culturelle, qui était en fait portée par une bonne partie de la bourgeoisie de langue allemande, cette bourgeoisie, depuis la fin du XIXe siècle, essayait de faire en sorte que les districts, c'est comme un peu un ensemble de cantons, quoi, c'est entre le canton et le département, donc que les districts locaux soient homogènes linguistiquement.
Ah oui.
Mais les Tchèques ne voulaient pas. Les Tchèques ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur de la sécession et ils faisaient tout pour garder un peuplement mixte. Ils ont tout fait jusqu'en 1938, jusqu'aux accords de Munich, pour garder un peuplement mixte. Et comme j'ai dit, c'était une partie des Allemands et une partie des Tchèques, plutôt, on pourrait dire, la bourgeoisie. Ce n'était pas tout le monde.
C'était un esprit du 19e, du 20e siècle.
Très 19e, oui. Et très spécifique à cette Europe centrale et particulièrement à l'Autriche, à l'Empire d'Autriche, qui reconnaissait ses nationalités, Il y avait une dizaine, 10 nationalités reconnues, donc vous pouviez avoir des écoles dans votre langue, parler dans votre, communiquer avec l'administration dans votre langue, même si la langue générale jusqu'en 1918 était quand même plutôt l'allemand. Enfin, c'était l'allemand. Mais justement, ces groupes, eh bien, surtout les Tchèques et les Allemands, pour peut-être mieux se développer, ils ont pensé qu'ils devaient être plus homogènes.
Ça fait penser, alors ces districts en Alsace à la Décapole. Alors ça, bon, c'est le 15e siècle, hein, je crois. Oui. Hein, les villes libres, Agno, Wissembourg, Landau. Est-ce qu'il y avait la même autonomie de ces districts avec une solidarité pour se défendre en cas d'agression?
Non, parce que c'est beaucoup plus moderne, mais ce qu'on peut dire comme point commun, c'est que c'est, quand je dis district, c'est comme un... Il faudrait presque dire canton ou cercle, enfin c'est, voilà, c'est une unité administrative qui effectivement était toujours autour d'une ville, petite ou grande. Et effectivement, il y avait une conscience des villes, et là on rejoint effectivement la culture alsacienne, hein, qui est une culture germanique. Il y avait le droit des villes, oui, tout à fait, comme en Suisse. Hein, c'est une manière de fabriquer la citoyenneté. On avait le droit de bourgeoisie, de vivre en ville, que si la ville vous l'accordait. Et ça, dans l'Empire austro-hongrois, ça a été le cas jusqu'en 1918. On ne pouvait devenir citoyen de cet empire que si une ville vous acceptait. Voilà, il y avait...
Et avec des différences linguistiques d'une ville à l'autre, alors ?
Oui.
Ils avaient leur propre dialecte ?
Alors, les gens parlaient surtout dialectes, mais ils parlaient des dialectes plutôt germaniques ou plutôt slaves, dans la région qui m'intéresse.
Et le slave, la langue slave et la langue germanique, tchèque, c'est deux langues différentes, pas du tout les mêmes racines.
Ben,
Alors, comment est-ce qu'on mélange deux langues comme ça? L'alsacien et le français, bon là, il y a des racines communes latines, mais l'allemand et le français pour l'alsacien, mais...
Ce sont toutes des langues indo-européennes, donc elles ont toutes une proximité que des linguistes expliqueraient mieux que moi, mais il y a quand même des racines et des systèmes grammaticaux qui sont suffisamment différents pour qu'on passe des années à les apprendre mutuellement, mais elles se mélangent.
Alors, vous étudiez ces langues?
Oui, je les étudie.
Est-ce qu'on dit pomme de terre? Est-ce qu'on dit Grumper ou Artsepfel?
Ah bah alors là, c'est une très bonne question, parce que c'est une question d'influence culturelle. On dit Brambor. En tchèque, Brambor, et en fait, ça vient... Ah, mince, j'ai oublié.
La pomme de terre.
C'est la pomme de terre, et Brambor, il y a aussi quelque chose que malheureusement j'ai oublié, mais ça se trouve très facilement sur Internet, je pense.
Non, mais c'est rigolo, parce que c'est un des mots plutôt récents, hein, dans la culture des langues.
Et est-ce que vous savez que l'introduction de la pomme de terre s'est faite en Europe, d'abord en Europe centrale?
Ah oui.
Et notamment dans l'Empire d'Autriche, à l'ouest des pays tchèques, à l'ouest des régions que j'étudie.
On a des racines comme ça qui sont...
On a une culture, on a une histoire commune. Oui. Et on a beaucoup de proximité. Quand les langues se mélangent, pour reprendre votre question, elles empruntent des mots. Alors là, dans mon coin, on empruntait des mots les uns aux autres. Par exemple, l'argot tchèque, c'est en fait de l'allemand. Comprends, et c'est de l'allemand autrichien, de l'allemand du sud. Donc en fait, quand les tchèques parlent argot, je les comprends beaucoup mieux que quand ils parlent tchèque normal.
Voilà, donc vous avez certainement du mal à comprendre les Marseillais,
non? Oui, je dois dire que je vis depuis plusieurs années à Strasbourg et en Europe centrale, et que ça vous change un peu la mentalité, oui. Quand je passe à Lyon, j'ai parfois l'impression de changer de pays, mais...
Alors au XXe siècle, il y a beaucoup de vagues migratoires, alors souvent forcées, imposées. Alors des populations entières qui ont été déplacées, expulsées, quand elles n'ont pas été massacrées. Est-ce que l'on emporte son passé lorsque vous allez bien loin de là où depuis des générations vous avez vécu?
Oui, alors c'est une très vaste question. La première chose quand on part, c'est de se réinstaller ailleurs. Et là, il y a eu des études de sociologie qui permettent de voir que ça dure un certain nombre de mois ou d'années. Dans les études des années 80, pour ces Allemands dont je parle, germanophones, qui avaient tué leurs voisins juifs, hein, les germanophones juifs, il y en avait très très peu, ceux-là qui avaient survécu ont pu être un peu aidés à reprendre pied, donc c'est un cas un peu à part que je ne vais pas traiter ici, qui est malheureusement assez minoritaire.
C'était des gens qui parlaient le yiddish, non?
Oui, mais on parlait surtout, je ne pense pas que c'est... Alors, je ne sais pas du tout la diffusion du yiddish dans ces coins-là. Vous savez, c'était une société qui, au niveau du développement, était comparable à la France de l'entre-deux-guerres. Mm-hmm. Donc, le dialecte commençait à s'effacer devant le haut allemand. Après, je peux pas. Voilà. Je vous dirais des bêtises.
Il est chic de parler français. Il est chic de parler.
Tout le monde était scolarisé. Ouais. Et la langue de l'école, c'était le haut allemand. Donc après, ce que les gens parlaient à la maison, il y avait des dialectes. Mais je pense que les juifs parlaient plutôt des dialectes locaux et moi, les locaux. Et les juifs que j'étudie en ce moment sont des industriels. Donc eux, ils avaient une bonne éducation de toute façon. Donc, et ces Allemands qui se sont intégrés, eh bien, on dit que le maximum, c'était 7 ans. Au bout de 7 ans, tout le monde était plus ou moins intégré. Mais des gens ont perdu en position sociale. Certains ont oublié leur passé parce qu'ils ne le trouvaient pas intéressant ou ce n'étaient pas des gens tournés vers le passé. Or, parfois, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants qui s'y remettent. Et puis, certains l'ont gardé avec eux de façon presque pathologique, parfois, sans pouvoir se reconstruire une vie. Et puis, il y a l'entre-deux. Alors, il y a eu beaucoup de musées qui ont été faits. Il y a eu des financements pour ça. Des revues, des associations d'anciens habitants. Moi qui travaillais, les journaux sur lesquels j'ai travaillé, c'était en fait un peu comme des groupes de soutien mutuel. Et ils parlaient un peu du passé, mais le but, c'était que les gens se sentent bien, se sentent sûrs d'eux, alors qu'ils étaient prolétarisés dans l'Allemagne d'après 45, et envisagent un avenir, et un avenir non radical. C'était des revues plutôt de droite, mais disons, tout le monde avait accepté la démocratie. Donc voilà dans quel. Mais après, il y a.
Est-ce que ce sont des populations qui revenaient dans leur pays d'origine en touriste, par exemple ou...
Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que les relations. Il y a eu la guerre froide, qui a donné une certaine justification aux souffrances de l'expulsion. Il y a eu ensuite les enfants qui, eux, ont interrogé sur le nazisme. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le nazisme?
Et ceux qui ont fui les soviétiques?
Oui. Et puis après, il y a eu la construction européenne. Donc, si nous parlons de ces choses-là en 2024, on passe par plusieurs vagues de mémoire, ou pardon, plusieurs contextes, plusieurs... Et en gros, on peut dire que c'est allé de mieux en mieux et vers un rapprochement au moins... Comment dire? Il y a eu beaucoup de préjugés, il y en a encore, mais on va plutôt dans le bon sens de ne pas entretenir les ressentiments et les préjugés. Il y a eu un gros combat contre le ressentiment aussi. Et puis, sur le plan individuel, ça je voulais vous le dire parce que c'est assez amusant, il y a des gens qui sont partis, alors à partir des années 60, on a pu rendre visite à la République, à la Tchécoslovaquie. Beaucoup ne voulaient pas y revenir, hein, parce qu'ils avaient de trop mauvais souvenirs, mais certains y revenaient, et certains y revenaient parce qu'ils étaient fans de hockey sur glace. Voilà, donc voilà. Ils suivaient les matchs. Donc il y a aussi des choses tout à fait légères. Il y a aussi des rencontres de sportifs, de skieurs, d'artistes.
C'est comme les Alsaciens qui défendent leur équipe maghrébine au football, le championnat du monde de football, et qui disent je défends mon pays, alors qu'ils sont nés en Alsace. Et ils sont pour l'équipe, je sais pas, d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie. Et ils disent, je rentre au pays l'été quand ils vont 3 semaines en vacances, alors qu'ils sont nés à Strasbourg et qu'ils sont alsaciens, intégrés, tout marche bien pour eux.
Ce phénomène d'avoir plusieurs pays, plusieurs Heimat, c'est quelque chose d'assez caractéristique de ces déracinés. Et peut-être qu'il faudrait faire une typologie.
Est-ce que c'est une double culture et est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est déstabilisant?
Oui, alors la question c'est comment est-ce qu'on met ensemble ces différents Heimat, ces différentes appartenances, ça peut se passer de façon très pacifique et comme un enrichissement. Mais je pense qu'il faut travailler à ça. Parce que quand il y a des tensions, on a tendance à défendre la culture attaquée et à oublier les autres. Donc,
alors les tensions, je pense par exemple au voile, le fait que la religion... ce télescope avec la vie quotidienne et vous guide votre mode de vie, c'est ça que vous appelez un petit peu la difficulté de cohabiter, enfin de mettre les deux choses ensemble.
Dans le terrain que j'ai étudié, mes sujets d'étude, la dimension post-coloniale est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est dans les anciens empires coloniaux comme la France. Donc ça, c'est quelque chose... Il y en a quand même. Les Allemands se sentaient supérieurs aux Tchèques, et les Tchèques leur en voulaient, leur en veulent jusqu'à maintenant. Enfin, il y a un petit ressentiment, il y a une petite tension à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui.
Pourtant, depuis le 3 octobre, donc 1990, l'Allemagne est considérée comme un pays plutôt intégrateur.
On sait que le travail sur le passé des Allemands et le travail sur l'intégration européenne des Allemands est, je crois... très très positif, moi je le trouve
la admirable. La réunification a été positive pour tous ces groupes.
La réunification s'est faite dans un esprit qui était d'inclusion, et d'inclusion des autres pays européens, et pas d'hégémonie. On peut, voilà, ça c'est aussi un des acquis, de, une des choses extrêmement positives de la construction européenne, de permettre ça. Et les Tchèques, de leur côté, se développent, eh ben, vous savez, quand on est victime et quand on est réellement victime, hein, d'un fait. Mais c'est très dur, je pense, ça c'est une réflexion personnelle, mais est-ce qu'une des choses très dures, c'est pas de sortir de cette passivité de la victime et donc du ressentiment et donc de l'impossibilité d'être sûr de soi, d'accueillir, de parler d'égal à égal et de prendre d'avoir une vision plus nuancée de votre ancien adversaire ou de votre ancien oppresseur. Je pense que ça, c'est aussi un des enjeux. Et moi, qui veux travailler sur la gestion des cultures, hein, les rapports entre cultures, j'aimerais bien continuer à travailler là-dessus.
Est-ce que les Alsaciens auraient pu revendiquer comme ça un retour à la mère patrie après 1990, enfin certains, je ne sais pas. Bon, la société alsacienne s'est tellement diluée entre-temps, donc c'était peut-être plus difficile, mais on peut imaginer des groupes d'Alsaciens qui disent ben, on retourne à l'Allemagne.
Oui, bon, dans l'Union européenne, ils peuvent le faire. Hein. Oui. Ça, c'est aussi une chose qui, paraît-il, depuis les années 60, a beaucoup détendu. Détendu, il n'y a pas de revendication, voilà, qui a détendu les revendications. Mmh. Mais il n'est pas facile de se connaître soi-même quand on est de plusieurs cultures et que ces cultures ont eu des rapports difficiles. Et je pense que c'est important, enfin, un des rôles de l'historien, je pense, c'est d'expliquer ces rapports, au moins de les décrire, que les gens comprennent pourquoi ils ont cette difficulté. Moi, j'en suis là. Mm-hmm. C'est modeste, mais je ne peux pas parler de grand-chose de plus.
Maintenant, les Alsaciens, ils bonifient leur occupation. Enfin, hein, on est fiers de la Neustadt, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Allemands qui ont construit toutes ces belles maisons.
Enfin, l'annexion.
Oui,
c'est mais l'annexion a été reconnue internationalement, donc ce n'était pas un régime de... C'était pas un régime illégal.
Mais pour les gens, pour la population. Je pense aux Allemands qui ont fui les Soviétiques après la guerre.
Hein, oui, après 1945.
Il y a une dizaine de millions, hein, je crois, d'Allemands qui ont fui. On peut comprendre pourquoi. Enfin, il devait y avoir des explications. Bon, on sait ce qui s'est passé à Berlin.
On revient à l'expulsion des Allemands après la Seconde Guerre mondiale, qui là, la plupart du temps, étaient forcés. Il y en a qui ont fui, notamment les combats de la fin de la guerre.
Oui.
Mais la majorité, numériquement parlant, a été expulsée de force pour enlever la présence allemande de Pologne, surtout, de Tchécoslovaquie ensuite, et puis des autres pays du bloc de l'Est. Et c'était une condition des soviétiques, les pays comme la Hongrie ou la Roumanie qui ne voulaient pas expulser leurs Allemands. La Hongrie a été obligée de le faire et la Roumanie l'a fait aussi. C'était aussi un moyen de, par exemple, de récupérer des usines, des maisons, des fermes.
Et les repeupler après la guerre.
De faire la réforme.
On les appelait déjà les Flüchtlinge.
Alors on les appelait justement tout au début les réfugiés, donc Flüchtlinge en allemand. Oui. Mais comme on trouvait que ça sonnait mal parce que ça rappelait la propagande contre la désertion du front, et les gens pensaient encore tout à fait comme des nazis, hein, il faut bien dire, ils avaient tous ces mots en tête, on a fait d'autres catégories, et celle qui s'est imposée au début des années 50, c'est celle des expulsés de leur patrie, en allemand Vertriebene ou Heimatvertriebene, donc expulsés de sa patrie, qui est une catégorie juridique qui a donné droit en Allemagne de l'Ouest à des allocations, et à des aides, et à des crédits, et pour suivre des études, au paiement des retraites aussi. Et en Allemagne de l'Est, qui ne pouvait pas financer tout ça, il y a eu des aides sociales. Enfin, les Allemands expulsés ont été intégrés dans le système de production et d'aides sociales. Et comme il y avait beaucoup de place à prendre à l'Est, et bien finalement, ils ont souvent fait de meilleures carrières à l'Est qu'à l'Ouest. Mais avec un niveau de vie plus bas, bien sûr.
Cette générosité, si on peut dire, ou d'intégration de la part de l'Allemagne, ce n'était pas aussi une façon, consciente ou non, de réparer tout ce qui avait été fait pendant la période nazie.
Hein, c'était important pour les États allemands successeurs de l'Allemagne après 1945, de l'Allemagne nazie, de se présenter comme les successeurs de l'Allemagne et non pas un État par la volonté des alliés. Donc pour vous présenter comme successeur, il faut accepter l'héritage.
Ah oui.
Donc il faut payer. On paye les dettes.
On paye les dettes.
Et, oui.
Et vous pensez que les Allemands... Alors, on sait que de 45 à 48 ou 50, c'était la misère totale en Allemagne. Hein, il y a un livre, Le bien qui te sortir, Le temps des loups,
oui.
Qui est formidable. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'était vraiment pour payer les dettes ou c'était simplement... On oublie la période allemande, hein, c'est le thème du livre. Et on oublie la période nazie. On oublie... On ne culpabilise surtout pas pour la Shoah et tout ça, parce qu'on a d'autres choses à faire, c'est de trouver de quoi manger et se loger.
Oui, alors il y a plusieurs choses. L'Allemagne, il y a une volonté de punir l'Allemagne, mais qui est très rapidement, assez rapidement, à céder aux logiques de guerre froide, et donc de ne pas avoir un espace de chaotique, de tension au milieu de l'Europe. Donc on a reconstruit l'Allemagne, à l'Est comme à l'Ouest, assez rapidement. Donc les pénuries du début de la guerre ont été, de la fin de la guerre, se sont plus ou moins, elles ont duré effectivement 2-3 ans. Il y a eu des cartes de rationnement en Allemagne de l'Est jusqu'au milieu des années 50, mais les gens voyaient qu'on allait vers le mieux. Et effectivement, on dit que cette génération-là s'est lancée dans le travail, dans la reconstruction, pour ne pas penser.
Mais elle manquait de main-d'œuvre, et donc c'est pour ça qu'en 1961...
Oui, mais là, c'est déjà autre chose.
L'Allemagne a signé avec la Turquie ce fameux traité, où il y a eu un million de Turcs, les Gastarbeiter.
Alors, l'histoire allemande, c'est enchaîné très vite. Hein. La reconstruction, en fait, s'est faite très vite. En Allemagne de l'Ouest, on a profité de la guerre de Corée, qui, avec le boom des mains, les Américains ont eu besoin de produire. En Allemagne de l'Est, c'était avec la Tchécoslovaquie le pays le plus industrialisé du bloc de l'Est. Donc, assez rapidement, la reconstruction a été lancée à plein régime. Il y avait aussi un choix en Allemagne de l'Ouest que les femmes ne travaillent pas. Donc, on avait d'autant plus besoin de main-d'œuvre. Et même à l'Est, on a eu besoin de main-d'œuvre extérieure qu'on a fait venir notamment du Vietnam.
Ah oui ?
Oui.
Oui, c'est un des pays...
alliés.
Alliés,
communistes.
Voilà.
Oui.
Et donc, c'était avant la guerre du Vietnam, alors.
C'était pendant. Il y avait déjà la guerre d'Indochine.
Oui.
Hein, depuis. Et puis ça a continué pendant jusqu'aux années 70. Enfin non, je crois même tout le temps. Bon, il y a beaucoup de Vietnamiens encore maintenant.
Une petite digression comme ça, c'est pour ça qu'il y a autant de restaurants chinois, mais tenus par des Vietnamiens en Allemagne.
Oui. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais il y a présence forte vietnamienne. En Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est et en République tchèque, parce que du fait de cette immigration de travail qui, en 90, a été mise au chômage, la première, beaucoup de gens sont restés et continuent aussi maintenant des liens avec le Vietnam, qui est le pays que nous savons, un pays émergent, communiste, une dictature, mais il y a beaucoup de liens entre l'Europe centrale et le Vietnam, du fait de la continuation de flux, de circulation entre les deux pays. Et effectivement, ces anciens migrants se sont beaucoup spécialisés dans le commerce les bazars et les commerces de fruits et légumes partout, parce que ils peuvent travailler familialement, ils acceptent de passer des heures et des heures dans leur boutique, et puis les restaurants pas chers, oui.
Oui. Oui, oui. Alors, si on passe à la génération suivante, oui. En 2013, l'Allemagne accueille 1,2 million de réfugiés du Moyen-Orient. Hein. Donc, c'est le fameux Angela Merkel qui avait dit « on peut le faire ».
Oui.
Voilà.
En pensant justement à l'accueil des expulsés après la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, c'était une référence explicite.
C'est une référence
explicite
qui a été faite plusieurs fois. Explicite, en disant qu'on a été capable de... l'Allemagne moderne, d'après 1945, s'est constituée de migrations. Mais les migrations les plus massives jusque-là, elles étaient de culture allemande. Mais on s'est rendu compte que cette culture allemande était déjà très diverse, plus qu'on ne pensait, et qu'elle s'éloignait de plus en plus. Donc on s'est dit finalement, il y a peut-être pas tant de différence que ça avec des gens de la Méditerranée. Et il y a une chose que moi je pense personnellement, mais avec mon expérience et ce que j'ai vu, c'est que, encore une fois, le post-colonial est moins présent en Allemagne, peut-être en France, mais il y a toujours... Là, on entre dans une autre problématique qui est celle des rapports de l'Europe et du reste du monde depuis le 19e siècle. Et qui ont été des rapports d'exploitation, de supériorité, aussi de diffusion des savoirs. Hein. Il faut voir.
Et de présence en Afrique aussi.
Un peu partout.
L'Allemagne n'avait pas de colonies.
Oui, elle a simplement fait un des premiers massacres, un des premiers génocides de l'histoire, mais comme ce n'était pas un peuple numériquement très nombreux, il était possible de l'oublier. On s'en est souvenu seulement dans les dernières années.
Voilà, oui.
Oui. Les héros.
Je voudrais reposer la question sur emmener avec soi son passé.
Oui.
en étant prudent hein, pour contourner les affres du racisme. On arrive dans un pays, est-ce qu'on emporte avec soi ces modes de vie hein, qui sont réprouvés par les pays d'accueil? Alors je résumerai par ce qui est le plus voyant, hein, c'est le suivi d'une religion qui interfère dans la vie quotidienne. Les femmes qui sont cachées, qui restent à la maison, et puis voilà. Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui a existé également dans les pays du Sud-Est?
Oui, avec donc l'arrivée d'une migration culturellement beaucoup plus proche et capable d'entrer dans le système culturel des productions sans le changer profondément. Alors, moi, c'est exactement la question que je voulais me poser pendant ma thèse, mais après, j'ai un peu dévié. Il est quand même frappant de voir qu'on a des conduites comparables entre tous les migrants, comme le sas, le fait de vivre entre soi, de vivre entre soi pendant quelques temps, et ça peut durer très longtemps, ça permet de s'habituer à la société d'accueil et de s'y habituer, et donc ça peut préparer l'intégration, contrairement à ce qu'on pense souvent. Et ce qu'on pensait dans les années 60, jusqu'aux années 60, on avait peur que les expulsés ne s'intègrent pas. Et on s'est aperçu que... Alors, ce qui est décisif pour une intégration, c'est la deuxième génération. Et il faut que la deuxième génération, elle, se sente bien dans le pays d'accueil pour qu'on puisse parler d'intégration. Et les rapports avec la religion, eh bien, comme c'était des religions chrétiennes, elles ont évolué. Mais il y avait des différences qui ont suscité beaucoup de tensions hein, dans la manière de faire.
Mais est-ce que l'émigré ne peut pas être considéré comme un ambassadeur de sa culture? Parce que les Allemands, quand ils sont partis au 19e siècle aux États-Unis, par exemple, ils sont devenus des ambassadeurs de la culture allemande. Il y avait une fierté d'être allemand là-bas. Est-ce que les émigrés qui arrivent actuellement en Allemagne ne pourraient pas être fiers de leur culture, du Moyen-Orient, donc? Et être comme des ambassadeurs plutôt que d'être comme des gens qui se faufilent.
Ça dépend vraiment des circonstances. S'il y a des places à prendre, si on peut vous donner une place valorisée dans la société d'accueil parce qu'on a besoin de vous et parce que vous avez les compétences nécessaires, là c'est possible. Pensez que nous avons énormément de médecins étrangers. Il y a par exemple des médecins tchèques. Il y en a un qui travaille, que j'avais entendu à la radio un jour, qui travaille à Haguenau dans le service de cancérologie, qui donnait une interview à la radio tchèque en disant à quel point c'était bien d'être à Haguenau et qu'il l'a apprécier à quel point les Français étaient soucieux de la santé de leurs compatriotes et qu'on ferait mieux de faire la même chose en République tchèque. Donc ça, c'était très intéressant pour moi d'avoir exactement ce que vous venez de dire, un immigrant qui se valorisait et à sa place est capable de faire communiquer son pays d'accueil et son pays d'origine. Mais la plupart du temps, quand on fait venir des migrants, c'est parce qu'on en a besoin pour des choses que ne veulent pas faire les gens de la société d'accueil. Et un migrant, la plupart du temps, il y a un choc de la migration. Ce choc est à plusieurs... Et ce choc, c'est aussi une déqualification, une dévalorisation. Donc... souvent, les migrants actuels, et ça c'est curieux, ont des qualifications. Même les Vietnamiens dont je parlais tout à l'heure, qui arrivaient en Allemagne de l'Est ou en Tchécoslovaquie, étaient des gens qui avaient un diplôme. Mais est-ce que ce diplôme était reconnu? Est-ce qu'ils étaient au même niveau? Ce sont les questions qui se posent.
Plière, une dernière question. Comment est-ce qu'on devient agrégé d'histoire?
Alors, on vient agrégé en ayant la chance d'avoir une famille... qui vous aide, qui vous parle bien français, qui vous fait lire, qui vous emmène à l'étranger et qui vous paie vos études. Je pense que ça, c'est le mieux. Après, on peut le faire par soi-même, mais il faut faire ça tout seul, donc c'est moins évident. On a bien sûr de bons professeurs et de bons systèmes d'enseignement, mais l'agrégation, moi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu difficile.
Ça demande aussi d'être vive et formidablement sympathique, si je peux me permettre.
Avec le compliment, c'est vrai que plus on avance dans les qualifications, plus il faut allier des qualités contradictoires. Mais ça, toute personne.
Il y a un cliché pour conclure et finir cette émission, c'est bien connaître le passé pour mieux préparer l'avenir.
Oui, c'est exactement dans cet esprit que je travaille.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Ségolène Plière. C'était donc l'émission numéro 74, l'épisode 74 de Vous l'avez bien connu. Aujourd'hui, au loin, les monts des géants. Ségolène Plière. Alors, les monts des géants, c'est la traduction de...
D'un massif à l'est, qui est au bout des massifs des Sudètes.
Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30, rediffusion le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.